Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale, c'est Maître Wessé, vous êtes plutôt futé, et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour en parler dans la grande série sur la mythologie astrale du tarot. J'ai vraiment hâte, et en fait je me suis rendu compte d'un truc, j'ai hésité en fait à la fin de l'épisode parce que j'ai oublié un gros pan de l'intro, donc je vais la mettre dans l'épisode 1. On va beaucoup parler d'épée aujourd'hui, donc voilà, et c'est pas grave, le tout c'est que les gens aient l'information, donc qu'ils l'aient au début ou à la fin, le plus important c'est qu'ils aient l'information. Il y a plein de familles qui existent en fait dans le. Oh my goodness! Merci à tous les Patreons, passés, présents et futurs, qui soutiennent le contenu. C'est grâce à vous que je peux vivre de ce que je fais et vraiment me concentrer sur ma créativité et ce qu'il y a de plus important en fait pour moi. Voilà. Donc vraiment merci du fond du cœur pour cet épisode et pour tous les autres. Ils vous sont gracieusement offerts par les Patreons. Qui m'aident du coup à produire tout le contenu que je fais sur Mythologie Astrale. Et shout out à toute l'équipe. En temps et en heure, je vous les présenterai. C'est vraiment un bonheur et une fierté de travailler avec tout le monde. Parenthèse refermée. Donc, il y avait beaucoup de choses à dire en fait en intro que j'ai pas dit la dernière fois parce que je sais pas, peut-être que j'ai mal relu mes notes, mais en tout cas, on va faire élément par élément. Et aujourd'hui, on va beaucoup parler d'épée. Mais avant de rentrer dans le nitty-gritty des choses, parlons un peu des grandes écoles du tarot. Voilà. On va commencer par la première école, qui est celle du tarot de Marseille. Et donc en fait, tout ça commence au 15e siècle, donc il y a très longtemps. Ambiance découverte du nouveau monde, balancer des bébés contre des rochers, contaminer les gens avec des maladies cheloues. Voilà, qu'elle paye ton ambiance. Et voilà, et en fait, le tarot de Marseille, c'est un peu le vieux grand-père du tarot, quoi. C'est un peu Saturne, avec des images qui sont fortes et des images qui racontent aussi des thèmes, en fait, et des récits qui sont épiques. Voilà. Vraiment épiques, violents. Voilà, le tarot de Marseille, c'est ce qu'il y a de plus solide et rigide dans le tarot. Ensuite, on a une autre école qui est assez intéressante et qui est un peu plus chill. C'est l'école du tarot Rider-Waite. Donc les gens vont dire Waite ou les gens vont dire Rider. Moi je dis Rider Waite, mais c'est moi qui va apparaître en fait au XXe siècle. Donc ici on est vraiment dans le siècle de la guerre, quoi. En fait on pourrait même se concentrer plus particulièrement sur les années 1900 où vraiment ce tarot Rider Waite débarque avec des dessins qui sont hyper détaillés et qui tout de suite donnent une dimension d'interprétation qui est encore plus profonde en fait au tarot. Ensuite, on a une troisième école, c'est le tarot Thoth d'Aleister Crowley. Et donc ici, pareil, il apparaît dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et donc ici, on est vraiment dans un tarot qui est mystique, qui est riche en sens. Donc Aleister Crowley, elle sort le tarot de Thoth, qui est beaucoup plus ésotérique et qui permet, comment dirais-je, d'apprécier quelque part le dark side aussi des archétypes du tarot, et on aura l'occasion d'en parler dans l'épisode bonus. À chaque série, je vais faire un épisode bonus sur Patreon où je vais parler du dark side en fait des archétypes du tarot et de quoi se méfier en fait. Parce qu'évidemment, toutes ces cartes qui apportent des informations, du bonheur et des bénédictions, etc., vous doutez bien que dans les mauvaises mains, elles peuvent apporter du malheur, des malédictions et plein d'autres choses négatives. Donc maintenant, l'intro, elle est officiellement terminé, on va pouvoir enfin parler des épées et de ce qu'elles signifient. Il y a énormément de choses à dire sur les épées, donc vraiment accrochez-vous parce qu'on va aller dans la profondeur des choses. Moi, c'est ce que j'aime, alors c'est ce qu'on fait. Déjà, il faut savoir que d'un point de vue purement symbolique, de la même manière que les individus ont une mythologie astrale, les États-nations ont aussi des mythologies astrales. Les royaumes ont aussi une mythologie astrale. Voilà. Et souvent, on appelle ça d'ailleurs des cosmogonies. Voilà. Si on se concentre vraiment sur la création et un peu plus, de manière un peu plus moderne et un peu plus légère, on peut juste parler d'un mythe national. Par exemple, le mythe national de la Grande-Bretagne, c'est la légende du roi Arthur. Voilà. Le mythe national du royaume de France, c'est la chanson de Roland, si je ne me trompe pas. En sachant que la France, elle a eu 12 000 vies, donc frère, et je sais pas combien de républiques. Donc pour chaque charte, il y a évidemment un mythe qui est différent, mais en tout cas, voilà, la chanson de Roland, la légende du roi Arthur. Et pourquoi je parle de tout ça? Parce que l'épée, on l'oublie, on lui donne souvent juste une fonction, c'est de tuer ou de faire joli. Alors qu'en vérité, l'épée elle-même, l'objet, est une métaphore en fait. Les épées, c'est des objets qui sont souvent associés à la quête de vérité. Et pourquoi je vous ai parlé des mythes nationaux? Parce que c'est aussi l'un des attributs du chevalier. Et là, je ne vous parle pas du chevalier de la table ronde, je vous parle vraiment du chevalier d'un point de vue archétypal. Le chevalier, c'est autant, le chevalier, c'est autant le chevalier médiéval qui fait la cour. C'est un peu Ivan, le chevalier au lion. Et en même temps, le chevalier, c'est aussi votre voisin motard sur son bike. Voilà quoi, il va chercher sa nénette avec son petit blouson en cuir et tout. Voilà. Et aussi, sauf qu'on a tellement perdu en qualité en fait depuis l'époque du Moyen-Âge que voilà, maintenant les chevaliers, ils ont juste à conduire. Vous vous rendez compte? C'est comme si en fait, il y a genre 300 ans, les gens avaient juste besoin de monter à cheval pour vous faire comprendre qu'ils ont de la valeur, des vertus, des principes, etc. Enfin, on marche sur la tête quoi. Anyways. Donc, les épées sont souvent associées à la quête de vérité, à la recherche de la réalité derrière les apparences. Comme une épée qui tranche les ténèbres, ces lames nous encouragent à voir au-delà des illusions et à affronter la vérité, même si elle est parfois douloureuse. Et donc ça, c'est vraiment la première dimension de l'épée. Tout de suite, ça nous met les pieds dans le plat, parce que ça nous révèle la dimension duale, en fait, de l'épée, et aussi les possibles mirages, en fait, qui sont laissés par l'épée. Un autre point que je voulais explorer avec vous, c'est la puissance de la pensée, hein, dans l'action. Chaque carte d'épée, en fait, du tarot représente une facette de la pensée humaine. De l'as, qui symbolise la naissance d'une idée, à la carte 10, qui illustre la culmination de pensées et d'idées. Les épées, au final, elles sont le reflet de notre monde mental, où les pensées sont autant d'épées pointées vers le ciel, ou, dans un cas un peu plus funeste, vers soi-même. Donc voilà, après on a toujours dans cette configuration-là les épées donc, qui font la puissance de la pensée. Ensuite on a les épées et la question des relations. Donc en fait il faut savoir que dans le tarot, les épées ne sont pas seulement des armes de guerre, elles sont aussi des instruments de communication. La lame de l'épée symbolise la nécessité de l'honnêteté dans les relations. Et parfois, pour se construire, il faut d'abord déconstruire les illusions et les malentendus. Et je pense que c'est l'une des choses que j'aime le plus avec les épées dans le tarot, c'est ce côté un peu responsable de soi-même. Une autre dimension que j'aime beaucoup avec les épées, c'est évidemment la dualité, hein, et la question du choix. Donc la dualité et le choix, donc les épées vont évoquer ici les choix difficiles. En fait, certaines cartes, elles montrent des personnages qui doivent faire des choix déchirants, hein, et qui soulignent que la vérité peut venir avec des décisions difficiles, mais il faut savoir aussi qu'il y a des sacrifices derrière qui sont nécessaires pour avancer. La cinquième raison pour laquelle je voulais vous parler des épées, c'est évidemment la dimension de la croissance personnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à travers les arcanes des épées, on observe un parcours de croissance personnelle. Les conflits intérieurs, au moment de clarté, les épées nous guident à travers les hauts et les bas de la pensée humaine, reflétant notre propre voyage vers la sagesse et la compréhension. Moi, j'aime beaucoup les épées parce que elles me rappellent beaucoup de choses. Elles me rappellent déjà mon amour profond pour les littératures de l'imaginaire, la fantaisie, etc. Et vraiment, comme je vous ai dit, hein, l'image archétypale du chevalier. La légende d'Excalibur ou. ou la légende du Saint Graal, je trouve que c'est vraiment des mythes qui permettent de bien identifier le rôle en fait de l'épée, particulièrement celui du Saint Graal, parce que le Saint Graal, c'est littéralement une quête pour la vérité et la justice en fait. Et l'épée, ou en tout cas le choix de l'épée et la voie du chevalier, c'est censé être la même chose. Enfin, pas exactement la même chose, mais ça s'en rapproche quand même, c'est complémentaire. Que dire d'autre par rapport à ça? Ouais, il y a pas mal de courants philosophiques qu'on pourrait associer à la famille des épées. Je pense que l'un des courants qui correspond le mieux à ça, c'est l'existentialisme. Donc c'est vraiment ce rapport de force entre la réalité et la fiction, ce rapport de force entre nos environnements, pardon, et notre fort intérieur, notre vie intérieure. Et donc c'est pas toujours facile en fait de gérer ce type de dynamique intérieure. Et les épées, généralement, dans un tirage, vont manifester hein, ce type de dynamique-là. Voilà. Alors en somme, les épées, c'est pas forcément Mon élément favori en fait dans le tarot, en tout cas c'est pas forcément un élément qui m'appelle ou quoi, mais ça reste un élément qui est important, un élément de mouvement, d'action, de prise de décision et surtout, je me suis rappelé de ce que je voulais dire, d'empouvoirement en fait. Je trouve que c'est vraiment des cartes lorsqu'elles sont tirées qui donnent de la force aux gens, qui leur donnent envie de rentrer en action, qui leur donnent envie de se motiver et d'y aller. Donc voilà, donc je pense que vous attendiez que je dise et désormais sur Mythologie Astrale, votre tirage du tarot, etc. Bon. Moi, c'est juste que j'ai déjà fait, j'ai pas besoin de faire d'annonce et tout pour le dire, mais parfois, il m'arrive de tirer les cartes en fait à un client en pleine consultation. Donc, c'est seulement pendant les consultations en direct parce que je le fais en direct. Hein, j'aime pas trop les trucs trop différés. Et voilà. Et donc, du coup, bah, c'est, enfin, moi, j'ai bien aimé perso parce que ça vient. En fait, les cartes viennent apporter une touche supplémentaire d'interprétation. Et ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Surtout quand le tirage est précis et que les questionnements sont précis, ça peut vraiment donner, je trouve, beaucoup d'inspiration. Donc voilà un petit peu pour ce premier épisode de cette grande série sur la mythologie astrale du tarot, et on se retrouve dans le prochain épisode pour parler, je l'espère, des coupes. À très vite.